Bon, merci d'être encore là à la fin de cette longue journée. Je ne vais pas vous faire un état des lieux de la critique en matière de traduction, puisque ça a été très bien fait par Jean-Yves Masson dans le livre qui vous a été présenté ce matin par Anne Tomich, le livre blanc de la littérature comparée. Donc vous pouvez vous y reporter hein, pour connaître un peu les lieux où on travaille, les orientations principales du travail sur la traduction. Dans le cadre des études comparatistes aujourd'hui, je voudrais juste peut-être vous proposer une réflexion qui m'a été inspirée par une expérience de la traduction, bien sûr, mais surtout une expérience de la lecture des traductions et une expérience de l'enseignement en littérature comparée dans le cadre duquel je suis amenée à utiliser des traductions. Alors, je commencerai par rappeler le double énoncé maintenant fameux de Jacques Derrida dans Le monolinguisme de l'autre. On ne parle jamais qu'une seule langue. On ne parle jamais une seule langue. On ne parle jamais qu'une seule langue, mais on ne parle jamais une seule langue. Qui établit une sorte d'identité mélancolique qui caractérise sans doute notre temps, hein, celui qui fait de nous des êtres traduits ou des êtres en traduction, en tout cas incertains de notre position dans la langue, hein, même si celle-ci est unique et principale. Donc là, je rejoins, vous l'entendez, le type d'inquiétude manifestée quant au sujet par Philippe Darroze ce matin. Qu'une situation de monolinguisme masque la réalité d'une langue perdue, qu'un bilinguisme interdise à l'origine toute assise stable, que des déports ou des déportations conduisent ou obligent à tout recommencer dans une autre langue, que des situations sociales voient imposer un anglais qui, pour être international, n'en est pas moins déplacé. Notre situation contemporaine, même lorsqu'elle est déplacement dans les langues, n'est pas le croisement heureux que connaissaient les lettrés de la Renaissance, libres dans leur langue vernaculaire, assis sur le latin et le grec. Ils pouvaient se mouvoir du français à l'italien, à l'espagnol ou à l'anglais, et cela ne faisait qu'accroître non seulement leur possibilité de communication, mais aussi leur capacité d'expression. On rencontre encore parfois de ces positionnements jubilants dans les langues. C'est celui, par exemple, que décrit George Steiner dans After Babel. Et chez lui, le multilinguisme s'accompagne évidemment aussi d'une aisance parfaite dans les traditions textuelles et érudites. Mais ces positionnements jubilants sont devenus rares ou envisagés très différemment. On dénombre certes la présence de plus de 60 langues dans un texte comme Finnegan's Wake, mais on connaît également la façon dont Joyce travaillait les langues étrangères, à l'exception de l'italien, qu'il en était venu à parler en famille. Il avait des relais en les personnes d'étudiants ou d'amis qui, depuis leur pays respectif, lui envoyaient des listes de mots ou de courtes phrases préalablement constituées par lui en anglais et qu'il reproduisait à l'envi dans son texte. Jubilation certes là encore, mais on est loin de la complétude d'un esprit universel. Dispersion, émiettement, chaosmos sont pris dans ce cas aussi le relais d'une totalité impossible et dans la folie du programme de veille prolongée proposé par le Work in Progress, on lit une forme de dépossession qui caractérise nos individualités mondialisées, virtuellement dans toutes les langues, réellement dans aucune qui soit une condition suffisante. Je ne parle même pas de supériorité. Pourtant, il n'est finalement pas si lointain hein, le temps où Rivarol gagnait le concours sur l'universalité de la langue française. Hein, c'était en 1784. Mais condition de référence stable, tout du moins, à partir de laquelle communiquer, comparer, et s'exprimer. D'où l'impératif éthique, si souvent affirmé aujourd'hui, du tout traduire, afin, comme l'écrit par exemple Michel Deguy, de protéger Babel, c'est-à-dire de protéger la diversité des langues dans leurs espaces et dans leur histoire, mais avec comme condition, évidemment problématique, que tout serait traduisible. Mais d'où aussi la limite posée à cet impératif éthique par une entreprise comme celle de Finnegan's Wake, certes radicale, mais qui va bien au-delà de l'expérimentation moderniste en inscrivant cette question que je vous soumets. Faut-il en finir avec les traductions? Jacques Aubert en montrait déjà les implications dans un article qui date de 1967, où il montre que l'œuvre de Joyce défait l'idée que nous pouvons nous faire d'une forme identifiable, d'une forme reconnaissable, qui rendrait possible l'idée d'un double de l'œuvre, que ce soit dans l'interprétation ou, a fortiori, dans la traduction. Puisque dans ce texte, hein, peut-être vous l'avez déjà regardé, l'instabilité de la lettre ne permet jamais d'arrêter une lecture. Or, écrit Jacques Aubert, que je cite maintenant, « si l'œuvre n'est pas susceptible de se redoubler dans la lecture, comment pourrait-elle avoir ce double à la puissance seconde, qui est une traduction ?» Le problème véritable de Finnegan's Wake est moins dans l'acquisition des connaissances auxquelles il est fait allusion que dans les limites de leur application. La question subsiste, même lorsqu'on peut restituer un mot ou un détail, avons-nous le droit, pouvons-nous décider ? Le texte n'est plus alors sur le papier, il est à notre merci, au pouvoir de notre conscience et parfois, dérisoirement, de notre attention. Alors cette hypothèse que la traduction pourrait ne pas ou ne plus exister, outre qu'elle est assez excitante pour l'esprit, pourrait constituer aussi un programme politique qui ne s'arrête pas à une éthique, une façon inverse de protéger Babel en maintenant les langues dans leurs différences pour assurer leur relative étanchéité. C'est d'une certaine façon ce à quoi invite toujours plus ou moins la littérature, en confrontant le traducteur, comme le lecteur critique d'ailleurs, à la question de l'intraduisible, qui place toujours dans cette espèce de position contradictoire comment traduire, mais comment ne pas tenter de traduire. Alors évidemment, on ne peut pas se contenter de ces deux positions extrêmes. Hein, tout est traduisible, rien ne l'est. La transparence d'un côté, la transparence absolue de tout le texte et l'opacité de l'autre. Puisque, comme le rappelle Marc Delaunay dans une assez bonne synthèse des enjeux philosophiques de la question du traduire, hein, c'est un petit texte paru chez Vrin dans la collection Chemin philosophique qui s'appelle « Qu'est-ce que traduire ?» Que l'on suppose la diversité contingente et donc transitoire, donc qu'on aille du côté d'une pensée de la transparence, ou qu'on fasse l'hypothèse de son irréductibilité permanente, donc qu'on aille du côté de l'opacité et de la fin de la traduction, ou l'impossibilité de la traduction, c'est dans les deux cas, dit-il, une confusion qui s'opère. Soit les langues sont à terme vouées à se fondre toutes dans le langage, enfin réunifié, et c'est la première confusion, hein, l'universalité est alors le télos à l'accession duquel la traduction contribue, soit chacune, chaque langue, campe à jamais dans ses propres limites, et l'universalité, tout comme la traduction d'ailleurs, n'est qu'une illusion, ce que vient massivement battre en brèche est le fait historique de l'interpénétration complexe de plusieurs idiomes qui peuvent déboucher sur la formation d'autres langues, et le fait également historique d'un débordement constant des limites de chaque langue vers les technolectes, des technolectes plus spécialisés, ceux des sciences par exemple, outrepassant les frontières de la plupart des cultures. Mais si ces confusions se font jour, c'est justement parce que la réflexion sur la traduction révèle toujours, et le révélateur, disons, d'une situation historique précise. Celle d'aujourd'hui, par exemple, dont je viens grossièrement de dresser le portrait, où la désubjectivation va de pair avec la réduction de l'espace d'occupation possible de la langue et l'adoption comme patrimoine commun d'un grand texte unifié et qui conduit à valoriser à l'extrême la traduction. Donc c'est là qu'on entrevoit un petit peu la possibilité de répondre à la deuxième partie de la question qui nous a été posée aujourd'hui, pourquoi la littérature comparée ? Eh bien, premièrement, je répondrai en disant « pour réfléchir à notre situation historique dans la langue et les langues à partir de cet observatoire privilégié qu'est la littérature, pour être en mesure d'en percevoir la spécificité de cette situation historique, hein, pas de la littérature, et de manière utopique, mais l'idéal de la discipline a une forte dimension politique, la transformer. » Alors juste une parenthèse sur cette dimension politique de l'idéal de la discipline. Il est bien évident qu'il s'est agi parfois, grâce à l'art de la comparaison, de renforcer des positions acquises et de limiter les conséquences du déplacement en retournant bien vite au centre, le décloisonnement provisoire n'ayant servi qu'à le valoriser. Comme lorsqu'en voyage, on trouve toujours le pain moins bon ou le riz trop gluant. Mais dans l'ensemble, il y a dans le souci du déplacement l'ambition de porter un regard autre sur soi et donc sur l'autre. Que le champ de la littérature comparée soit devenu mondial, qu'il ait en grande partie renoncé aux divisions par aire géographique ou au binarisme qui le caractérisait autrefois, complique évidemment la tâche. Il oblige à faire de la traduction et du texte traduit un matériau décisif, notamment pour produire des synthèses. Tout comme Franco Moretti est conduit à valoriser la distance au texte pour porter parfois un nécessaire regard d'ensemble. Ce qui consiste, la distance au texte, la proposition est suffisamment étrangère aux pratiques académiques françaises pour que je le rappelle un peu, parce que ça ne manque pas d'intérêt pourtant, mais c'est très choquant par rapport à nos habitudes. Ce que défend Moretti, c'est de prendre intérêt davantage aux commentaires, de préférer le travail sur le commentaire, parfois, de préférer le travail sur le commentaire au travail sur le texte, afin de pouvoir produire ce type de synthèse. Donc il défend la lecture de seconde main, ce qui est un peu en effet étranger à nos pratiques. Et le travail sur le texte traduit est partie prenante, à certains égards, de cette « distant reading ». C'est en ce sens que l'évoque d'ailleurs, plutôt en mauvaise part, Yves Chevrel dans son article « Œuvre en traduction, conditions de lisibilité », et qui maintient tout au long le texte traduit comme un texte secondaire ou comme un pis-aller, même s'il propose à la fin de son article d'insérer la didactique des œuvres littéraires en traduction dans le programme des études universitaires. Alors, je fais l'hypothèse que le texte traduit peut aussi faire l'objet d'une lecture rapprochée, d'une close reading, mais avec d'autres outils pour la lecture. Pourquoi ? Alors, pour la raison que j'ai dite, la raison pratique, qu'à partir du moment où on veut parfois envisager les questions à un niveau mondial, on est amené par les limites propres de chacun quant à ses compétences linguistiques d'avoir recours à des traductions. Mais c'est pour d'autres raisons, peut-être plus théoriques et plus profondes aussi, que je fais cette hypothèse ou que je défends cette idée. Parce que, d'une part, la traduction a parfois tendance à travailler à la destruction du texte original. Je vous cite ce texte de Borges, assez connu aussi, qui est traduction d'Homère. « L'Odyssée, grâce à mon ignorance opportune du grec, écrit-il, est une librairie internationale d'œuvres en prose et en vers, depuis les vers à rimes plates de Chapman jusqu'à l'Authorized Version d'Andrew Lang, au drame classique français de Bérard, à la saga vigoureuse de Morris ou à l'ironique roman bourgeois de Samuel Butler. » Fin de citation. Donc destruction du texte original. D'autre part, parce que la littérature comparée s'énonce de façon interne dans le texte traduit. On y lit la discontinuité historique qu'il y a entre deux langues, l'écart entre deux littératures, mais on y lit aussi en même temps deux langues et deux littératures, à deux moments différents de leur histoire. Donc ce sera aujourd'hui la réponse que je donnerai à la première partie de la question, à ce comment aussi auquel on nous a demandé de travailler, parce qu'il correspond à une de mes pratiques du comparatisme. Alors, je dois préciser que j'ai éprouvé maintenant depuis quelques années la stimulation exercée par la pensée de la traduction sur l'enseignement et sur le cours de la pensée même, à l'occasion d'un séminaire que je donne autour de questions de traduction, ça change chaque année, mais à des étudiants de deuxième et troisième cycle. Et il m'est apparu au fil du temps que par la réflexion sur la traduction, on ne se contentait pas de réfléchir sur la traduction, on ne se contentait pas de réfléchir une pratique spécifique qui serait celle de la traduction, mais qu'on pouvait aller assez loin dans la compréhension de l'historicité particulière de la littérature, les modalités de sa mémoire et de sa transmission. Plus qu'aucun autre discours sur les textes, me semble-t-il, la théorie de la traduction prend en charge la réflexion sur la langue des œuvres, sur l'inflexion que chaque écrivain dans chacun de ses écrits donne à cette langue et sur les modifications qu'elle subit au cours du temps. Elle s'intéresse à des processus donc de production et de réception. C'est assez rare, c'est-à-dire que on est vraiment au carrefour des deux questions, puisqu'en se plaçant au plus près de la fabrique du texte, elle en exhibe des variations qui sont liées à des usages relatifs ou modifiés de la langue, à des moments d'histoire de la langue et de l'interprétation. « la traduction donc est le même texte que l'original. La traduction n'est jamais le même texte que l'original. Travailler sur le texte traduit implique d'abord, comme dans toute réflexion comparative, de réfléchir à ce que l'on entend par les notions de même et d'autre. Lorsqu'on place côte à côte dans sa bibliothèque The Wasteland, le texte d'Eliot, et La Terre vaine, la traduction par Pierre Léris, on juxtapose deux exemplaires du même livre et deux livres différents. Et ce n'est pas seulement une question de point de vue, hein, les deux énoncés sont vrais en même temps. Et ce, qu'une traduction soit considérée comme bonne ou comme mauvaise. Que chacun d'entre nous ait accès à une grande partie de la littérature mondiale en traduction en dit long sur l'impossible communauté de lecteurs que nous formons. Nous lisons les mêmes textes, tous différents. Ainsi, lire un livre, ça n'est pas simplement entrer dans une langue ou dans un langage, c'est lire un point d'espace et de temps. Une fois cela posé, compris, intériorisé, nous pouvons enfin quitter le discours de la déploration, qui est si souvent mis en évidence ou mis en œuvre lorsqu'il s'agit de traduction. Le texte traduit n'est plus nécessairement inférieur à l'original. Constat, d'ailleurs, je le précise, qui n'a lieu que dans le cadre d'une connaissance de l'original rendant finalement inutile la traduction. Constat qui n'intervient pas dans la pratique de lecture courante, amateur, voire même lettré, de la littérature. Le texte traduit est l'indice de notre situation dans le monde et dans l'histoire. C'est ainsi que Borges, je reviens à lui, peut à la fois faire une fable de l'impossibilité de la traduction, dans le texte qui s'appelle « La quête d'Averroès », que vous devez avoir lu, et dire aussi, dans un autre texte, qu'un texte est constitué de l'ensemble de ses traductions, dans le texte que je viens de citer, qui s'appelle « Les traductions d'Homère ». Alors son paradoxe va plus loin que le mien, dans la mesure où, selon lui, le texte n'est que dans la mesure où il nous est donné, et que l'impossibilité de le rejoindre par la traduction n'est qu'une conséquence de son ontologie. Donc on ne peut connaître le texte que par la traduction, et en même temps on ne peut pas le rejoindre par la traduction. C'est le paradoxe qui est mis en œuvre par le jeu de ces deux textes. Alors, le traducteur tend certes le plus souvent à produire du même ou du presque même, pour reprendre l'expression d'Umberto Eco, qui donne son titre à un livre qui a été traduit récemment en français et dont tous les journaux parlent actuellement. Libération des livres ce matin fait deux pages dessus, la semaine dernière Le Monde. Donc en italien, dire quasi la stessa cosa, dire presque la même chose. Bon, je ne vous conseille pas l'achat de ce livre, qui n'est pas d'un intérêt fou, mais enfin qui n'est pas non plus inintéressant complètement, mais ça suffit de lire en bibliothèque. Voici le sens, écrit-il, des chapitres. Je l'ai lu pour vous, du coup, comme je devais parler de ça aujourd'hui. Bon. Voici le sens, écrit-il, des chapitres qui suivent. Tenter de comprendre comment, tout en sachant qu'on ne dit jamais la même chose, on peut dire presque la même chose. À ce stade, ce qui fait problème, ce n'est pas tant l'idée de la même chose, ni celle de la même chose, mais bien l'idée de ce presque. Eco fait alors intervenir. C'est le point le plus intéressant de son livre, mais on peut le rencontrer chez d'autres théoriciens de la traduction, le terme de négociation. L'intérêt de son livre, c'est qu'il sera infiniment plus populaire que les d'autres textes sur la traduction qui ont été produits ces 20 dernières années et qui contiennent, en fait, même parfois beaucoup mieux développé tout ce qu'il dit. Mais au moins, là, c'est quelque chose qui va passer dans un discours plus général. Donc ça a cette fonction-là qui est nécessaire. Donc Eco fait intervenir le terme de négociation pour évoquer les critères de la mise en œuvre de ce presque du côté de celui qui traduit et qui, selon Eco, qui, je le précise, dans ce livre, s'appuie surtout sur des exemples de traductions qu'il a faites lui, bon c'est normal, mais surtout de traductions qui ont été faites de ses romans dans différentes langues. Donc traducteur qui, selon Eco, doit retranscrire un monde. Ce serait intéressant par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir sur la fiction. C'est la proposition d'Eco, retranscrire un monde, même si cela se fait au prix de certaines transformations formelles. Donc ce qui compte, c'est la transposition de monde. Donc ça rejoint des théories de la traduction qui parlent du texte traduit en termes d'effets esthétiques. La traduction réussit son objet si elle parvient à produire le même effet sur le lecteur. Mais reste à définir ce qu'on doit entendre par effet esthétique. Bon là, je ne vais pas continuer sur ce point, mais ça pourrait donner lieu à une discussion intéressante et qui croiserait certains des enjeux qui vont avoir été évoqués tout à l'heure par Françoise. Donc la question de la différence, elle est en amont du travail du traducteur et elle le justifie. Cette vérité ouvre d'une part la réflexion du côté de l'anthropologie, hein, où comprendre l'autre, c'est aussi connaître le même. Il y a tout un travail de pensée de la traduction qui explore cette dimension anthropologique, notamment un livre de synthèse assez efficace sur ce sujet de Jean-Louis Cordonnier qui s'appelle « Traduction et culture ». Et puis un recueil en italien qui n'a pas été traduit en français, hein, « Lo stesso altro », »,« le même autre ». Elle conduit d'autre part, hein, cette vérité de la différence, du côté d'une poétique du texte conçue non comme relatif mais comme variable et portant en lui-même l'ensemble de ses variations. Toute traduction est alors l'actualisation d'un des possibles du texte, d'une de ses variables. On touche là à une explication de la différence ontologique entre texte original et traduction et texte traduit. Le premier, le texte original, est constamment actualisable, quand le second est actualité particulière. Et évidemment que la réponse à la question « pourquoi retraduire ?» est contenue dans cette proposition. Il faut retraduire puisqu'il faut renouveler cette actualité, il faut reprendre l'actualisation sans cesse. Penser le texte traduit comme même autre, il faudrait même pouvoir le penser en termes d'autre autre, pour sortir de toutes les crispations identitaires portées par la pensée classique de l'altérité, permet de saisir le dynamisme d'un mouvement qui ne se réduit pas à un simple passage. Et j'invite, bon, c'est connu maintenant parce qu'il y a eu des emportements très célèbres d'Henri Méchonic contre la métaphore du passage, je vais vous citer un exemple, mais effectivement, je pense comme lui et comme d'autres maintenant, quand on approfondit la question de la traduction, on se rend compte que le penser comme passage d'une langue à l'autre est tout à fait insuffisant, et je vais essayer de montrer pourquoi. Donc Henri Méchonic, je le disais, dans Poétique du traduire notamment, a dénoncé les implications de la métaphore du passage ou du passeur à propos du traducteur. Passeur est une métaphore complaisante, écrit Méchonic. Ce qui importe n'est pas de faire passer, mais dans quel état arrive ce qu'on a transporté de l'autre côté, dans l'autre langue. Caron aussi est un passeur, mais il passe des morts qui ont perdu la mémoire. C'est ce qui arrive à bien des traducteurs. Alors, désactiver la métaphore du passage ou du passeur invite non seulement à porter une mémoire dans la pratique, comme Méchonic propose de le faire, c'est son point de vue, mais à penser une circulation aussi des effets, d'une version à l'autre du texte. Alors, la comparaison des traductions constitue l'exercice le plus intéressant pour mesurer ces effets qui sont de croissance, augmentation du texte par strate dans le temps. Ça rejoint là la proposition de Borges, c'est-à-dire que plus il y a de traduction, finalement, plus le texte est riche. Il n'est pas le seul à l'avoir dit. J'ai cette fameuse phrase de Renan, un texte non traduit n'est qu'à moitié publié, etc. Bon, beaucoup d'auteurs insistent sur ce point-là. Il y a des réflexions de Jacques Roubaud, absolument passionnantes aussi, qui vont dans ce sens. Donc des effets de croissance, d'augmentation, des effets de croyance, puisqu'on voit dans cette confrontation des traductions la prégnance des idéologies, et des effets aussi de dispersion, bien sûr, par l'explosion du rapport de la lettre au sens en plusieurs directions, mais pas disparition de ce rapport, comme le discours sur la traduction, le discours le plus répandu sur la traduction, le fait souvent entendre. Il s'agit dans cet exercice de comparaison des traductions de ne pas considérer l'original comme une référence, de ne pas en faire un arbitre. Donc, je vais vous donner un exemple, mais je pratique beaucoup cet exercice dans des cours de premier cycle plutôt, de comparer des traductions dans une même langue sans référence au texte original. Donc il ne s'agit pas de comparer là où les traductions par rapport à l'original dans un questionnement qui serait toujours celui de la fidélité, mais de comparer les traductions entre elles pour un travail sur l'historicité, donc qui laisse totalement tomber les questions de fidélité. Alors, l'un des exemples les plus pédagogiquement efficaces pour travailler là-dessus, mais qui est aussi très frappant, c'est ce recueil que vous connaissez peut-être, constitué par Philippe Brunet, qui rassemble 100 versions d'un même poème, 100 versions, traductions du même poème de Sappho, L'égal des dieux. Alors c'est particulièrement intéressant parce qu'on a cru longtemps l'original de ce poème perdu, disparu. Et on connaissait ce poème par une version partielle de Catulle. Et lorsqu'on a retrouvé le texte grec, il a été retrouvé sous une forme lacunaire. Mais on voit très bien à quelle époque il a été retrouvé parce que les traductions changent. On voit les traductions qui se sont appuyées sur la traduction de Catulle et puis celles qui retournent à l'original grec. Et cela, on n'a pas besoin de regarder les originaux pour le savoir. On voit tout de suite qu'il se passe quelque chose, puisqu'il y a deux vers en plus, un vers en moins, etc. Alors cette dispersion, ces versions lacunaires, cette histoire de disparition, cette ruinification de l'œuvre originale joue pour une part dans la réitération du geste de le retraduire, puisque ce geste de retraduction s'accompagne aussi, bien sûr, souvent, d'un acte de réécriture visant à combler les lacunes du texte partiel ou perdu. Alors, ce qui se lit dans les versions, j'en cite quelques-unes, Louise Labbé, Ronsard, Bello, Malherbe, Delille, Chénier, Dumas, Banville, Richepin, René Vivien, Marguerite Yourcenar, André Markowitz, comme quantité d'inconnus ou quantité d'anonymes. Ce qui se lit, c'est tout à la fois un souci d'appropriation, de confrontation avec un sommet du lyrisme, donc de concours, et de continuation. Alors il y a deux manières de les lire. Soit on les lit dans la continuité chronologique, c'est ce que propose le volume d'abord, et on voit un certain nombre de choses. Soit on les lit hors la continuité chronologique et on voit d'autres choses. Donc je vais faire rapidement l'expérience avec vous. Alors si on les lit dans la continuité chronologique, on voit évoluer la langue, on voit évoluer le vers, on voit évoluer la forme du poème, et on voit évoluer jusqu'à la façon de dire le rapport amoureux. D'autant plus que c'est un rapport amoureux complexe dans ce poème qui met en jeu trois personnes, deux femmes et un homme, mais on n'est pas certain que ce soit deux femmes et un homme, donc on peut très bien jouer que ce soit deux hommes, une femme, ou deux, voilà. Bon. Enfin, y a sûrement d'autres combinaisons possibles, mais bon, voilà, on en reparlera. Donc on lit aussi, bon, autre chose dans cette continuité, la variation des conceptions de la traduction. Mais ça, c'est très intéressant aussi, parce que ça ne dessine pas une histoire continue. On n'aurait pas, jusqu'à telle période, mettons, Renaissance, Âge classique, une conception de la traduction comme infidélité, et puis ensuite, une conception littéraliste de la traduction. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des alternances qui sont beaucoup plus courtes, qui obéissent à des cycles beaucoup plus courts que ça. Les belles infidèles, ce n'est pas trois siècles de l'histoire de la traduction, et après on arriverait dans une époque plus proche de la nôtre où on serait fidèle au texte. Ce n'est pas du tout ça qui se passe. Vous avez des textes, des versions extrêmement fidèles à la Renaissance. C'est le cas, par exemple, de trois traductions d'Antoine de Baïf, qui sont très, très fidèles, au sens très littéraliste. Et puis vous avez des traductions très libres à notre époque. Donc, par exemple, on a des transpositions qui tendent vers la réécriture. C'est le cas du texte de Louise Labbé, de Malherbe, de Marguerite Yourcenar. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même époque. Et puis, des propositions qui sont au plus près du rythme, de la lettre, du latin ou du grec. C'est le cas donc des textes de Baïf, de Jacques Delille, de Philippe Brunet. Alors, je vais vous lire deux traductions récentes qui ont été produites à une époque proche. Justement, celle de Marguerite Yourcenar, qui est de 79, que vous trouverez dans La couronne et la lyre. Et celle de Philippe Brunet, donc, qui date de 1991, qui lui était helléniste et qui a traduit le texte et qui fait figurer sa traduction, évidemment, dans son volume, c'est normal. Donc, je commence par celle de Marguerite Yourcenar. Il est pareil au Dieu, l'homme qui te regarde. Sans craindre ton sourire et tes yeux et ta voix, moi, je tremble et je sue, et ma force est hagarde et mon cœur aux abois. La chaleur et le froid tour à tour m'envahissent. Je ne résiste pas au délire trop fort et ma gorge s'étrangle et mes genoux fléchissent et je connais la mort. Je vous lis la traduction de Philippe Brunet. Un rival des dieux, tel me semble l'homme que je vois assis devant toi, de face, lui qui peut t'entendre, si proche, douce lorsque tu parles, saisissante lorsque tu ris, ce rire qui en moi a bouleversé mon âme. Car à peine je t'aperçois, je reste toute muette. Et ma langue est comme brisée. Se glisse à travers mon corps une fine flamme et mes yeux, aveugles, se vident. Mes oreilles bourdonnent. La sueur ruisselle sur tous mes membres, un frisson me prend. Plus livide encore qu'herbe jaunissante, je crois sentir la mort qui s'approche. Tout est supportable pourtant, si, même pauvre, et une ligne de point de suspension, hein, puisque le texte est inachevé. Alors évidemment, l'autorité du poète traducteur, Yourcenar, est très différente de l'autorité de l'helléniste, et donc n'a pas du tout le même type d'intervention sur le texte, vous l'entendez. Il joue bien sûr aussi sur les libertés prises dans la traduction. Mais dans l'ensemble, on peut dire que les conditions de variabilité sont multiples. Elles tiennent à la fois à l'historicité de chaque traduction, de faits qu'on pourrait dire de contexte et d'époque, à des choix subjectifs et individuels qui sont eux-mêmes soumis ou non à des traits d'époque. C'est ce qui fait le caractère fascinant de ce petit recueil, mais on pourrait en constituer bien d'autres sur le même modèle. Donc on peut inventer des corpus de ce type. Et je ne fais pas étudier ça dans tous mes cours, hein. Je veux dire, je le fais une fois tous les 2-3 ans, mais il faut constituer d'autres corpus, bien entendu. Puisqu'on y lit tout à la fois une histoire de la langue, une histoire de la poésie, une histoire des rapports aux textes anciens. Mais il y a une autre manière de le lire, sans souci de la chronologie, et c'est une autre histoire qui se lit, celle du ressassement infini d'une parole amoureuse toujours imparfaite, toujours inquiète, toujours à reprendre, et dont la variation ne fait que renforcer la réitération. Donc je vous fais l'expérience de vous lire à la suite le même vers, hein, traduit par plusieurs traducteurs. Donc laissez-vous porter justement par cette petite variation ou ce presque même. J'ai emprunté à tout le recueil, ou un peu au hasard. Je tremble tout de crainte et peu sans faute alors qu'à tes pieds étendus, sans âme, je ne meurs. Je vous donne pas les noms d'auteurs, parce que sinon ça va couper. Bon, là je coupe, mais je vais reprendre. Je vous donne pas les noms d'auteurs, vous les retrouverez, vous pouvez les imaginer aussi peut-être. Donc je tremble tout de crainte, je reprends. Je tremble tout de crainte et peu s'en faute alors qu'à tes pieds étendus, sans âme, je ne meurs. Je ne puis respirer, ma bouche est toute pâle. Enfin, je crois bientôt être au nombre des morts. Je sentis tout mon corps étranger et brûlé, un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler. Un frisson me saisit, me cause un tremblement, je ne puis respirer, je pâlis, je me pâme, je tombe et tout mon corps reste sans mouvement. Et sans haleine, interdite, éperdue, je tremble, je me meurs. Tout mon corps tremble et sans haleine, éperdue, je me sens mourir. Tout mon corps tremble, on dirait qu'en mon cœur s'éteint la vie. Et une sueur froide se répand sur moi et un tremblement me saisit tout entière et plus verte que l'herbe, je suis... Et je meurs, presque de défaillance, je parais sans souffle. Puis je reste sans souffle, et roide ainsi qu'un cadavre, il me semble que je meurs, que je meurs. Mon corps frissonne, je deviens plus pâle que l'herbe flétrie, mon souffle s'arrête, il semble que je vais mourir. Un frisson me saisit toute, je deviens plus verte que l'herbe, et peu s'en faut, je me sens mourir. Un tremblement me saisit toute, je deviens plus verte que l'herbe, je crois mourir. Il y a bien un texte derrière tous ces textes, ou constitué de la somme de tous ces textes, où l'on retrouve la proposition borgésienne selon laquelle l'idée de texte définitif relève soit de la religion, soit de la fatigue. Il n'est pas un seul bon texte, écrit Borges, qui ne semble invariable et définitif si nous le pratiquons un nombre suffisant de fois. Cette pratique du texte pluriel met ainsi en jeu plusieurs façons de comparer. D'une langue à l'autre, on n'y échappe jamais complètement, et à l'intérieur de la même langue. Et sans aller jusqu'à prétendre qu'on rejoint la totalité du texte et de ses actualisations possibles dans ses versions successives, ou une perfection du texte achevé, comme peuvent le prétendre certains, quelque chose apparaît dans cette confrontation du travail spécifique du texte littéraire dans le temps. Je tiens ainsi que la compétence du comparatiste ne s'exerce pas seulement dans le travail en plusieurs langues et sur les langues originales, même si c'est ce qui est revendiqué avant tout comme son terrain de compétence. Et effectivement, vous avez assez peu de chances de faire carrière dans le comparatisme si vous êtes absolument monolingue. En revanche, je défends l'idée qu'il faut parfois mettre entre parenthèses sa connaissance des langues pour être un bon comparatiste. Et en tout cas, même si cela peut paraître au plus haut point paradoxal, lorsqu'on travaille sur la traduction, il faut parfois être monolingue lorsqu'on travaille sur la traduction. C'est ce qu'oublient beaucoup de gens qui travaillent sur la traduction. Et justement, pour sortir des vieilles lunes de la fidélité, de la bonne ou de la mauvaise traduction, considérations qui peuvent être utiles jusqu'à un certain point, évidemment, hein, quand il s'agit d'évaluer des traductions, mais qui ne font guère avancer la pensée sur la traduction et sur la littérature. Donc il faut absolument travailler la traduction dans sa langue, de façon monolingue, dans l'exercice que je viens de proposer, et qui seul permet de penser l'historicité du traduire, les liens profonds qui existent entre traduction et interprétation, les dépendances auxquelles sont aliénées nos lectures. De façon monolingue, peut-être seulement jusqu'à un certain point. Car la question qui reste à poser, qui était celle annoncée par mon titre, est celle de la langue du texte traduit. Est-il bien seulement, comme on le croit, dans la langue d'arrivée ? De quelle langue est sa langue ? Lorsque nous lisons Anna Karénine en français, nous savons que nous lisons un roman russe. Lorsque nous lisons Don Quichotte en français, nous savons que nous lisons un roman espagnol. Lorsque nous lisons Quatre générations sous un même toit en français, nous savons que nous lisons un roman chinois. Comme le signale justement Suzanne Petrelli, qui est celle qui a écrit L'ostesso altro, dont je faisais, auquel je faisais allusion tout à l'heure, je la cite, « La traduction est un discours indirect, masqué par un discours direct. » Et donc la formule métalinguistique implicite qui pourrait figurer au début de chaque texte traduit est « L'auteur untel a dit dans sa langue ce qui suit. » Mais, c'est ma question, où sont le russe, l'espagnol, le chinois dans ces romans que nous lisons en français, comme des romans russes, espagnols, chinois ? Qu'est-ce qui fait que la langue dans laquelle nous les lisons n'est pas leur langue ? Qu'est-ce qui se joue dans la langue dans laquelle nous les lisons de cette non-appartenance à cette langue et de leur appartenance devenue lointaine à une autre langue ? Alors il y a bien sûr les noms propres, les noms référentiels qui manifestent la langue dans l'autre langue, même lorsque, comme le fait le traducteur français de Lao She, l'auteur de Quatre générations sous un même toit, on traduit les noms chinois par ce qu'ils signifient. Grosse courge rouge ou petite lueur d'aube ou encore rue du petit bercail. Même là, on entend le chinois, on est compte. Il y a aussi, peut-être plus compliqué à percevoir, mais encore plus, beaucoup plus intéressant, le travail sur la lettre éventuellement opérée par le traducteur, choisissant par exemple de traduire, l'exemple est célèbre, « Ibant obscuri sub sola sub nocte per umbram » par « Ils allaient obscurs sous la désolée nuit à travers l'ombre », comme le fait Klossowski, plutôt que par « Ils allaient dans l'obscurité, seuls dans la nuit à travers l'ombre », comme le fait Aimé Patrie. Et pourquoi Klossowski fait ainsi ? Pour faire entendre le latin, sa rythmique, la liberté dans sa syntaxe, dans le français. Mais il y a aussi tout le travail des langues qui joue dans la traduction. Antoine Berman en donne une forte évocation dans un cours qui est encore inédit, mais qui est actuellement en cours d'édition et de publication aux presses universitaires de Vincennes, un cours sur la langue maternelle. Je m'occupe de l'édition de ce texte, donc c'est pour ça que je peux vous en livrer des extraits. Il m'est apparu, écrit-il, que la traduction opérait dans un espace complexe et entrecroisé de langues, au pluriel, dans un espace qui pourrait être la véritable Babel, un espace qui n'est pas seulement celui de la multiplicité des langues au sens courant, des langues parlées par les hommes sur cette terre. Donc il parle là de l'entrecroisement, d'un entrecroisement multiple de langues à l'intérieur même de la traduction, de l'acte de traduction, mais aussi qui se réfléchit dans le texte traduit. Selon quelle figure, demande-t-il, toujours hiérarchisée, s'ordonnent les diverses langues ? Langue naturelle et langue culte, langue vernaculaire et langue enseignée, langue dialectale et langue nationale, koiné et parler régionaux, etc. Donc on pourrait dire que la relation du texte traduit à la langue et aux langues est doublement hiérarchisée et stratifiée. Non seulement par l'espace des langues qui est celui du texte d'origine, et pas simplement pour les textes, même s'il y en a de plus en plus aujourd'hui, qui sont manifestement ou évidemment multilingues, mais aussi stratifié et hiérarchisé par l'espace des langues dans lequel le traducteur est pris, et qui est souvent bien plus complexe qu'une situation de bilinguisme. Si vous travaillez sur des mémoires de traducteurs, ou même des réflexions ponctuelles de théoriciens de la traduction, que ce soit Steiner, Berman, etc., vous vous apercevrez que la plupart des grands traducteurs, ou la plupart des traducteurs, en fait, sont multilingues. Ils sont très rarement bilingues. Ils évoluent dans un espace de multiples langues. Bon, Lisez Steiner, il en parle tout le temps, mais même Berman, il est dans une fréquentation multiple des langues, espagnol, polonais, yiddish, français et allemand. Et on voit ça chez beaucoup de traducteurs. D'où la question sur laquelle j'aimerais finir, et qui n'est pas du tout résolue par ceux qui commencent à l'évoquer ou l'ont évoqué, qui est la question de la troisième langue, et qu'on devrait faire intervenir lorsqu'on parle de la traduction. Alors l'idée de troisième langue, elle est apparue pour sortir la traduction de son évidence interlinguistique binaire, qui fait dire que c'est le passage d'une langue à une autre, point. Et cette idée de troisième langue, elle recouvre deux choses possibles, enfin deux terrains de réflexion, enfin elle ouvre deux types de réflexion. Chez Berman, il semble que la troisième langue désigne un horizon linguistique autre vers lequel serait porté tout traducteur dans le passage d'une langue à une autre, et qui viendrait bousculer ou rééquilibrer ou déséquilibrer le rapport conflictuel, difficile, qu'il y aurait entre les deux langues, celle que l'on traduit et celle dans laquelle on traduit. Et Berman dit que pour lui, lorsqu'il traduit de l'allemand au français, c'est toujours l'espagnol qui vient équilibrer ce rapport entre les deux langues, français et qui joue une partie particulière dans sa façon de traduire. Mais il y a une autre hypothèse que j'aimerais creuser et qui est aussi un horizon de la réflexion, qui est que la troisième langue, c'est la langue du texte traduit. Pourquoi le texte traduit serait dans une troisième langue ? Bien justement parce que le texte traduit fait entendre dans une langue une autre langue. Et c'est notamment visible dans les traductions qui manifestent une préoccupation qu'on appellerait littéraliste, c'est-à-dire qui cherche à faire entendre cette lettre de la langue originale dans la traduction, qui est théoriquement quand même la revendication la plus admise des traducteurs de la littérature ou des traducteurs de la poésie.